Il s'entend universel.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, l'antenne vous appartient. Bonjour à tous, comme tous les jours, RFI vous donne la parole. Et ce matin, nous attendons vos commentaires et vos réactions. Après le défilé du 14 juillet, hier à Paris, un défilé, vous le savez, si vous avez suivi RFI toute la matinée, aux couleurs de la Grande Guerre à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Hier, la France a donc rendu hommage aux sacrifices consentis par les militaires, mais aussi par les populations civiles de tous les pays touchés de près ou de loin par ce conflit. Alors des militaires de 68 pays ont participé à une animation des emblèmes sur les Champs-Élysées, place de la Concorde. Parmi eux, des soldats d'une vingtaine de pays africains. Il faut savoir que plus d'un demi-million de soldats des colonies ont combattu pour la France pendant la Première Guerre mondiale. À cela s'ajoutent quelques 200 000 ouvriers venus faire fonctionner les usines françaises qui étaient vides. Alors qu'avez-vous pensé de cet hommage? Le travail de mémoire a-t-il été à la hauteur de vos espérances? Et dites-nous si la contribution des soldats africains vous semble aujourd'hui suffisamment estimé. On en parle ensemble. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. N'oubliez pas les réseaux sociaux et notamment notre page Facebook, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Le débat du jour, ce sera dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. On a compilé, si vous me permettez l'expression, toutes les questions que nous avons reçu sur l'Irak ces derniers jours. C'est vrai que le pays est au bord de l'implosion. On voit que l'armée est enlisée face à l'avancée des insurgés. Avec nous dans ce studio, pour y voir plus clair, deux journalistes du service international d'RFI, Toufik Benaïchouch et Louis Bellenfant. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. On accueille tout de suite Jaurès, qui nous appelle de Pointe-Noire, au Congo. Bonjour Jaurès.
Bonjour Juan Gomez.
Nous vous écoutons, allez-y.
Si, alors, j'ai suivi sur vos antennes que les Kurdistan irakiens aimeraient organiser un référendum pour accéder à l'indépendance. Alors, j'aimerais savoir pourquoi une telle demande maintenant, alors que ce pays demande l'indépendance depuis longtemps.
Oui, ça fait plusieurs dizaines d'années que les Kurdes d'Irak veulent cette indépendance. Toufik Benaïchouch, c'est la première fois que le président de la région du Kurdistan irakien évoque aussi explicitement la volonté d'organiser un référendum.
Oui, c'est la première fois. Vous savez, les Kurdes sont répartis plusieurs pays dans la région, donc l'Irak, l'Iran, la Syrie, la Turquie, entre autres. Et la constitution d'un État kurde, pour ce qui concerne l'Irak, est redouté par toutes les puissances, tous les pays qui abritent une communauté kurde sur son territoire, parce que ils ont peur que ça devienne contagieux et que ces Kurdes-là...
Ils ont peur que ça fasse tache d'huile.
Exactement. Mmh. Et qu'il y ait la constitution d'un État ou de plusieurs États kurdes indépendants.
Mmh. On va y revenir dans un instant, mais comment expliquer?
Juste entre parenthèses, En Syrie, les Kurdes sont pas très loin de demander la même chose, puisque la situation est chaotique. Ils ont pris les armes, ils se défendent. Au début, ils ont joué à être les alliés de Bachar el-Assad. Maintenant, ils sont beaucoup plus indépendants, mais ils ont aussi cette revendication derrière la tête.
Ouais. Comment expliquer que le président de la région du Kurdistan demande maintenant un référendum d'indépendance? Pourquoi maintenant?
Parce que les conditions s'y prêtent. Souvenez-vous, l'État...
C'est ce qu'il a dit, mais ça signifie quoi, ça? Les conditions s'y prêtent, la période s'y prête, a-t-il dit, pour être exact?
C'est surtout face à l'effondrement de l'État irakien. Si vous voulez, quand vous êtes kurde, vous êtes à Erbil ou à Soulimaniyé, c'est-à-dire dans le nord de l'Irak, vous regardez ce qui se passe autour de vous, et bien vous voyez que l'État islamique contrôle pratiquement un quart du pays, que Nouri el-Maliki est pas disposé et n'a pas les moyens, et c'est la vision des Kurdes, n'a pas le génie qu'il faudrait pour amener le calme dans le pays.
Donc Nouri el-Maliki, le premier ministre
irakien, puisqu'il se refuse, si vous voulez, obstinément à trouver une solution avec les sunnites. Donc le Kurdistan se dit, il y a plus d'État irakien en fait qui soit viable. C'est le moment de constituer mon propre État.
D'autant que les Kurdes ont profité de la débandade des forces gouvernementales face à l'avancée des djihadistes pour étendre leur territoire tout de même.
Étendre leur territoire et de manière spectaculaire, ils ont mis la main, il n'y a pas d'autre mot, sur la ville de Kirkouk. C'est-à-dire que l'armée irakienne était dans un tel état de débandade qu'ils ont devancé les djihadistes et les militants de l'État islamique pour mettre la main sur Kirkouk. Kirkouk est une ville historiquement kurde. Hein.
Oui.
C'est Saddam Hussein à l'époque, lorsqu'il était au pouvoir, qui a renversé les équilibres des populations. Il a fait muter énormément des milliers, des centaines de milliers, qu'est-ce que je dis, de Kurdes dans d'autres régions d'Irak. Et il a fait venir...
Il a arabisé Kirkouk.
Exactement,
hein.
Il a fait venir notamment une forte communauté sunnite à Kirkouk. Mais ouais. Kirkouk est de tout temps, vous diront les Kurdes, Kurdes. Et donc, à la faveur de cette situation chaotique, les Kurdes ont mis la main sur la ville pour la protéger officiellement de l'État islamique, mais ils ne la rendront plus.
Ouais, puis c'est une ville pétrolière. Alors, faut pas oublier l'enjeu du pétrole, Toufik.
Kirkouk, vous savez, c'est à peine une boutade. Il suffit de donner un coup de pioche pour que le pétrole jaillisse. C'est-à-dire qu'il est, il est de très bonne qualité. C'est un pétrole très léger, donc il n'a pas besoin d'être beaucoup raffiné. Il coûte moins cher, donc. Et surtout, pas besoin de creuser beaucoup pour l'extraire. Et les réserves sont considérables. C'est-à-dire, les Kurdes ont mis la main sur un coffre-fort.
On repasse au standard. On va continuer à parler du Kurdistan. Vinod Bey, bonjour.
Et bonjour, Angoumel. Bonjour tout le monde.
On vous écoute.
Et bonjour, sur le dossier irakien, moi, j'ai deux questions. La première est de savoir quelle était la relation entre le Kurdistan et l'Irak depuis la chute de Saddam Hussein.
Saddam Hussein, depuis la... Effectivement, c'est vrai qu'il y a eu un changement. Le Kurdistan est devenu autonome à partir du moment... C'est pas tout à fait à la chute de Saddam Hussein, c'est...
Non, c'est
bien avant.
Saddam Hussein a octroyé un statut d'autonomie très très large en 91.
91, c'est l'auditeur qui m'induit en erreur, effectivement.
Exactement, au Kurdistan irakien. Mmh. Donc les Kurdes avaient bénéficié d'une autonomie très large, bon, toujours sous contrôle de l'État et donc de Saddam Hussein. Mais depuis 91, ils bénéficient de cette situation. Ce qui leur a permis, entre autres, parce qu'on est au nord, souvenez-vous de l'Irak, donc on est proche, enfin, il y a une frontière commune avec la Turquie. La Turquie, son grand problème, c'est qu'elle n'a pas de pétrole, qu'elle n'a pas d'énergie, elle doit l'importer en grande partie. Et donc, les Kurdes, de tout temps, depuis 91, se livraient la contrebande de pétrole, c'est-à-dire qu'ils prenaient du pétrole, le vendaient à la Turquie qui était bien contente, et donc se sont constitués un magot énorme avec ça. Et c'est avec cet argent qu'ils ont assis leur position et qu'ils ont assis leurs propres institutions.
Mmh. Une autre question, je crois, Vinod Bey.
Oui, la deuxième question est de savoir si éventuellement le Kurdistan devenait indépendant, alors quelles pourraient être les conséquences, tout d'abord politiques et ensuite militaires, dans la région ? Surtout dans les zones habitées par les Kurdes.
Alors justement, Toufik, vous en parliez un tout petit peu. On voit bien qu'en Syrie, en Turquie, en Iran, ce projet de référendum et donc à terme d'indépendance ne fait pas l'unanimité.
Non, ils vont avoir beaucoup de mal, les Kurdes, à obtenir leur indépendance. D'abord, l'Iran y est absolument hostile et l'Iran joue un rôle considérable en Irak. La Syrie de Bachar al-Assad, c'est la même chose, pas question qu'il y ait un État kurde. Bref, tous les pays qui abritent une communauté kurde, et surtout la Turquie, donc, sont hostiles. Mais, avec la Turquie, les choses sont en train d'évoluer. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire d'intérêt bien compris. Première remarque. Depuis 2003, c'est-à-dire depuis que Saddam Hussein a été renversé, il y a un rapprochement spectaculaire entre les Kurdes d'Irak et la Turquie. Moi, j'avais été à Erbil en 2003, j'y suis retourné en 2005 et en 2007, j'ai pas reconnu la ville. C'était une vraie ville champignon. Ça n'arrête pas au moment où on parle, ça n'arrête pas de construire, ça n'a jamais cessé. Et ce sont des hommes d'affaires et des entrepreneurs turcs qui construisent. Donc, ils s'entendent très bien. La deuxième chose, c'est que Barzani surtout, qui est un des hommes forts du Kurdistan irakien, et qui est à la tête du PDK, s'est rendu, pas plus tard qu'hier, en Turquie pour des discussions. Alors, il y a les deux parties se taisent, sont muettes, mais il a fait le voyage à Ankara, il a rencontré le président turc et le premier ministre turc. Donc, il y a des négociations. Vous savez qu'il y a une révolte des Kurdes en Turquie depuis de longues années avec le PKK. Et le PKK qui est dirigé par Öcalan, qui est en prison, mais qui continue à diriger le PKK. Et lorsque les événements en 2003 se sont déroulés en Irak, si vous voulez, le PKK a eu une envie aussi de se dire « c'est le moment ».
Bien sûr.
Et de faire la jonction avec nos frères du Kurdistan irakien. Or, Barzani a joué le jeu de la Turquie sur ce plan. Il leur a dit patienter aux leaders kurdes, c'est pas le moment, etc. Donc il a contribué à baisser la colère. Donc on s'entend très bien entre les Kurdes d'Irak et la Turquie. Mais est-ce que la Turquie ira jusqu'à accepter une indépendance du Kurdistan irakien ? On a tendance à dire non, mais les choses peuvent évoluer.
En tout cas, les États-Unis, eux, se sont prononcés contre ce projet de référendum. On peut quand même signaler que Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, lui, au contraire, il soutient cette indépendance.
Alors, non seulement
en deux mots tout fixe, c'est passionnant, mais il y a d'autres questions.
Non seulement il soutient cette indépendance, mais pour contribuer à mettre bas Saddam Hussein, il y avait des officiers israéliens qui se battaient en 2003 aux côtés des Kurdes et qui les conseillaient. De tout temps. D'ailleurs, dernièrement, on parlait de la prise de Kirkuk, donc du pétrole qui est aux mains des Kurdes. Les Kurdes ont envoyé, enfin, ont vendu du pétrole pour la première fois à Israël.
Ah oui.
Ce qui n'aurait jamais été possible s'il y avait eu un État fort irakien.
Évidemment. On repasse au standard. 33 9 693 693 70. On continue à répondre à vos questions sur l'Irak. Abdoul nous appelle du Mali. Il est à Bamako, dans la capitale. Bonjour Abdoul.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous.
Quelles sont vos questions ?
J'ai appris sur les refus que Aboubakar al-Baghdadi a été proclamé calife de l'État islamique par ses partisans. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'un califat exactement et à quoi correspondent les califats de l'État islamique.
Alors, on va déjà répondre à ces deux premières questions. Je sais que vous en avez plusieurs. Louis Bellenfant, c'est vrai que le chef de l'organisation de l'État islamique a été proclamé par son propre groupe calife de tous les musulmans. D'abord, qu'est-ce qu'un califat ?
Alors, le califat, c'est un régime politique qui est né au 7e siècle, qui est hérité de l'époque du prophète Mahomet. Alors, pour faire simple, comment s'est organisé le califat ? On a tout en haut, on a le calife. Il est considéré comme le successeur du prophète Mahomet. Donc, il a à la fois des pouvoirs politiques et il a aussi des pouvoirs religieux. Autrement dit, c'est lui qui fait appliquer la loi en terre d'islam, mais c'est aussi lui qui est le commandeur des croyants.
Il a d'ailleurs appelé tous les musulmans du monde à lui prêter allégeance.
Exactement. Et s'ils ne le font pas d'ailleurs, ils sont considérés comme rebelles et passibles de la peine de mort.
À quoi correspond exactement le califat de l'État islamique ?
Alors le califat de l'État islamique, il est beaucoup plus petit que les grands califats historiques qu'on a eus dans l'histoire avant 1924, qui est la date à laquelle les califats ont disparu. C'est Mustafa Kemal en Turquie qui a mis fin au califat. Alors le califat de l'État islamique, il est beaucoup plus petit, grand comme la Jordanie, je le disais, mais il a une particularité, c'est qu'il s'étend sur deux pays. Il s'étend à cheval entre la Syrie, aux portes d'Alep, de Alep, jusqu'à la province de Dilaya, en Irak. Ça, c'est aux portes de Bagdad. Et c'est une région où, il faut noter, il y a plusieurs puits de pétrole. Ça, c'est un gros atout pour l'État islamique. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est une remise en cause complète des frontières coloniales. Ces frontières coloniales qui viennent des accords Sykes-Picot de 1916, qui avaient été signés sur les ruines de l'Empire ottoman.
Et l'idée, c'est de faire quoi ? C'est de faire de Bagdad la capitale de ce califat de l'État islamique ? C'est ça, en tout cas, c'est son objectif à lui ou pas ?
Alors, pour le moment, non, ça, c'est pas l'objectif. Il sait que pour le moment, Bagdad, c'est pas prenable. Donc, pour le moment, le but, c'est de stabiliser son territoire. Ça, c'est hyper important, très, très important pour lui. C'est d'arriver à stabiliser ce territoire et attirer de nouvelles recrues pour éventuellement aller vers de nouvelles conquêtes.
Alors, Abdoul, vous aviez d'autres questions ?
Oui. Qui est Aboubakar al-Baghdadi ? Et quelle est sa légitimité et ses objectifs ?
Alors, que sait-on de ce nouveau calife ? Qui est-il ? C'est vrai qu'on a un peu parlé de lui. Enfin, il y a eu quelques photos qui ont circulé de lui. Ce sont toujours les mêmes, d'ailleurs. Je crois qu'il y a eu deux photos qui circulaient avant que tout le monde le découvre dans une vidéo.
Oui, eh bien, c'est ce que je vais vous dire. On sait pas grand-chose d'Aboubakar al-Baghdadi. Sa première apparition publique, vous l'avez dit, c'était dans cette vidéo tournée le 4 juillet. C'était à la mosquée de Mossoul. En Irak, il faisait un prêche devant un parterre de fidèles. Je dis, ça serait peut-être sa première apparition, parce qu'on n'est même pas sûr que ça soit lui, puisque les autorités irakiennes pensent qu'il s'agit d'un faux. Alors, on sait peu de choses de lui, parce que c'est un homme discret. Ça, c'est une caractéristique d'Aboubakar al-Baghdadi. Il se montre peu, il fuit les caméras. C'est tout le contraire d'Oussama Ben Laden.
Ouais, effectivement. Il a 43 ans, c'est l'âge qu'on lui prête, tout du moins. Que sait-on de son parcours ?
Alors, il est né en 71, 43 ans. Il est né dans la province de Dilaya, c'est pas loin de Bagdad. Il a fait des études à l'université islamique de Bagdad dans les années 90, puis il est devenu prédicateur salafiste, il a enseigné la charia dans plusieurs mosquées en Irak. Il a donc pas un passé dans la lutte armée. C'est seulement en 2003, avec l'invasion américaine, qu'il rejoint le djihad. Il rejoint un groupe, une branche locale d'Al-Qaïda en Irak, qui est dirigée par un Jordanien, Al-Zarqawi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il rentre dans la lutte armée.
Et en 2005, il est arrêté par les Américains.
Exactement. Ça, c'est un tournant. Il est arrêté par les Américains. Il est détenu pendant 4 ans. C'est l'occasion pour lui de se rapprocher des chefs d'Al-Qaïda en prison. Et il est libéré en 2009. Alors, il est libéré parce qu'il y a une grande relaxe de prisonniers irakiens faite par les Américains.
Ouais. Les Américains qui, aujourd'hui, offrent 10 millions de dollars hein, tout de même pour sa capture. Abdoul nous demandait quelle légitimité a-t-il pour être proclamé calife de l'État islamique ? Aucune ou...
Il n'en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Il n'en a pas beaucoup. Il s'est autoproclamé calife. Hein. Alors, c'est vrai que ses partisans disent qu'il descend de la famille du prophète Mahomet, d'où sa légitimité, mais ça, c'est pas prouvé. Donc, c'est assez difficile à dire. Il y a aussi cette étape, le prêche à la mosquée de Mossoul. Ça, c'est une étape obligatoire dans la tradition, c'est-à-dire qu'il doit prêcher devant des musulmans pour recueillir l'allégeance de la communauté musulmane. Donc, ça, c'est en faveur de sa légitimité. Mais il est quand même très contesté dans le monde musulman. Tout le monde ne veut pas lui prêter allégeance. Alors c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a eu l'impression que certains le soutenaient. Mais par exemple, les frères musulmans, eux, ils veulent pas du califat de l'État islamique. Ils veulent bien d'un califat, mais pas celui de l'État islamique. Puis il y a aussi les groupes djihadistes en Afrique. On a le Mujaho, on a Boko Haram. Tous, ils ont apporté leur soutien à l'État islamique, au califat de l'État islamique. Mais qui dit soutien ne dit pas allégeance. C'est très différent. Ils ne prêtent pas allégeance. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas se mettre à dos Al-Qaïda et son chef Al-Zawahiri. Al-Qaïda, c'est l'organisation que tout le monde connaît. Et c'est l'organisation dont conteste la suprématie. L'État islamique conteste la suprématie d'Al-Qaïda sur le djihad mondial.
Ouais, je vais me faire le porte-parole d'Emmanuel. Il nous reste 3 minutes à peine. Il est à Kinshasa. Il nous dit, mais pour quelle raison la Russie coopère avec l'Irak ? Est-ce qu'ils ont une relation diplomatique et militaire formelle et stable ? Ou est-ce exceptionnel ? Toufik Ben Aïchouch, c'est vrai qu'on voit en ce moment la Russie fournir de l'aide militaire à l'Irak.
Alors, il y a eu des relations avec, même sous Saddam Hussein, avec la Russie. La Russie a notamment vendu des MiG à l'époque à l'ancien président d'Irak. Mais pour aller très vite, la Russie a un problème que l'Irak connaît et que la Russie connaît très bien, c'est l'islamisme et la lutte des djihadistes. Rappelez-vous la Tchétchénie, bien le sûr. Daghestan, ça a été sanglant. Pour la petite histoire, la Russie qui était l'ennemi du commandant Massoud, puisque Massoud s'est battu contre l'Union soviétique lors de l'invasion et pendant toutes les années d'occupation, eh bien, lorsque les talibans ont surgi, c'est la Russie qui a fourni le plus d'aide au commandant Massoud, c'est-à-dire son ancien ennemi, pour combattre les talibans.
Oui, mais là, j'ai envie de dire que c'était aux portes de la Russie. Là, l'Irak est assez éloigné. Pourquoi cet intérêt ?
Parce que l'islamisme est contagieux. Dans les anciennes républiques, dans l'ex-Union soviétique, il y a une forte montée de l'islam depuis les années 2000, grosso modo. Donc, c'est toujours la même histoire, intérêt bien compris. Là, en l'occurrence, ils ont vendu des Sukhoi à l'armée irakienne.
Des avions de combat.
Oui, des avions de combat, des Sukhoi à Nouri al-Maliki, donc à l'État irakien. Alors, c'est compliqué. En fait, les Russes avaient vendu ces Sukhoi et des MiG aussi à l'Iran. Traditionnellement, donc depuis longtemps. Et là, ce qui s'est passé, en fait, il y a une partie d'avions russes qui effectivement ont été acheminés à Bagdad, mais la majeure partie des avions dont on parle, eh bien, c'est l'Iran qui les avait obtenus de la Russie, qui les a transférés en Irak aujourd'hui.
Bien. On est obligé de rendre l'antenne, messieurs, mais vous reviendrez, j'espère. On a d'autres questions encore sur l'Iran. Merci à tous les deux, Toufik Ben Aïchouch.
Merci à vous.
Et Louis Bel-Enfant. D'autres questions, évidemment, à la rédaction demain, d'ici là. Abusé du téléphone, on attend toutes vos questions. 33 9 693 693 70. Dans 10 minutes, notre débat du jour consacré aux commémorations du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale et l'hommage rendu notamment hier aux soldats africains qui ont combattu en 14-18.